Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat en ce vendredi 7 mai 2021. Ce vendredi 7 mai, le dernier vendredi du mois béni de Ramadan marque la journée mondiale de Quds. À l'initiative du défunt fondateur de la République islamique d'Iran, l'imam Khomeini, qui a remis en effet la cause palestinienne au cœur de la conscience arabo-musulmane. Cette journée est considérée comme une occasion pour refléter la voix des Palestiniens sans voix qui vivent toujours sous l'oppression du régime sioniste. En raison des restrictions sanitaires dues à la pandémie de coronavirus, les célébrations de la Journée mondiale de Quds n'ont pas lieu cette année, mais le leader de la révolution islamique vient de prononcer un discours très important. Dans son discours, l'honorable Ayatollah Khamenei a souligné que la question palestinienne reste toujours la question la plus importante de la communauté musulmane. Il a souligné que deux facteurs déterminent aujourd'hui l'avenir par rapport à cette question. D'abord, la poursuite de la résistance à l'intérieur des territoires palestiniens occupés. Deuxièmement, le soutien des gouvernements musulmans à la cause palestinienne. L'honorable Ayatollah Khamenei a également affirmé que l'unité du monde musulman, en effet, conduirait à un cauchemar pour le régime israélien. L'honorable Ayatollah Khamenei a noté que des tentatives désespérées du régime sioniste et de son supporteur, notamment les États-Unis, comme la normalisation des relations avec une poignée de pays arabes, était une tentative désespérée, en effet, de retarder ce cauchemar. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur cette journée importante et surtout le discours crucial du leader de la révolution islamique sur la question palestinienne. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Vous regardez toujours l'émission du débat. Merci de votre fidélité pour cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir Maître André Chamy, juriste international et sociologue, et Pierre Dortiguier, philosophe et politologue français. Maître Chamy, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, à vous tous, et merci pour votre invitation, surtout au professeur Dortiguier.
Maître Chamy, alors, selon de nombreux analystes cette année, eu égard aux récentes évolutions relatives à la question palestinienne, notamment les récents événements à l'intérieur de la Palestine occupée, la journée mondiale de Quds revêt une importance toute particulière. Quel premier regard portez-vous justement sur les célébrations de cette journée cette année, Maître Chamy?
Je pense que le premier regard que je porterai sur la commémoration de cette année-là, c'est la chute du mur de la peur. Aujourd'hui, la nouvelle génération palestinienne, animée par une idée enracinée maintenant sur leur volonté d'obtenir leur indépendance et la libération de leur territoire de l'occupant, les a rendus beaucoup plus forts, beaucoup plus courageux, beaucoup plus, je dirais, incisifs dans leur démarche, que ce soit en territoire occupé, c'est-à-dire la Cisjordanie et autour, que ce soit à Gaza, et au sein du territoire occupé en 1948, on sent qu'il y a des évolutions, on sent qu'il y a un tremblement comme un tremblement qui précéderait un tremblement de terre, et le tremblement de terre n'attend qu'une petite secousse pour faire exploser tous les. Nous sommes aujourd'hui à la veille de cette. Cette veille, effectivement, peut prendre quelques mois ou peut-être quelques années, mais l'évolution est déjà là. Et tout est prêt pratiquement pour que l'explosion ait lieu. Il suffit juste qu'il y ait l'étincelle qui est attendue, mais tout en étant dans l'amplification de l'action, tout en étant dans l'amplification de la révolte de la jeunesse, des plus anciens, mais toujours avec cette haine de la situation d'être occupé et d'être dominé, d'être sous l'emprise d'un occupant ou d'un criminel animé par des actions terroristes et par des actions qui deviennent de plus en plus insupportables pour l'humanité entière.
Merci infiniment pour ces précisions, Maître Chamy. Restez avec nous. On va tout de suite se rendre à Toulouse pour rejoindre Monsieur le professeur Pierre Dortillier, philosophe et politologue français. Monsieur Dortillier, bonjour.
Bonjour, Monsieur Codavandé. Bonjour à vos auditeurs. Un grand merci, un grand bonjour à Maître Chamy, que j'ai écouté avec grande attention.
Monsieur le professeur, dans son discours, le leader de la révolution islamique aujourd'hui a souligné que le régime israélien continuerait de se glisser sur la pente du déclin. Il paraît que, justement, on l'a d'ailleurs répété à maintes reprises, c'est un régime qui est condamné à disparaître. Il paraît qu'aujourd'hui, justement, plus que jamais, les jours de cette entité d'occupation sont comptés, monsieur le professeur.
Oui, en effet, il s'agit là d'une fatalité pour le régime israélien. Cette fatalité consiste à imposer un État sur une spoliation générale et à ne pas reconnaître que le caractère sacré de Jérusalem est un caractère qui est d'Al-Qods, est un caractère qui est reconnu, disons, par les différentes confessions, bien sûr le mosaïsme, mais aussi le christianisme, l'islam, et avoir voulu le confisquer, disons, cette terre au nom d'une divinité, alors que la plupart de ces dirigeants sionistes, il faut le dire, des troupes qui ont fait cette sorte de révolution, contre le peuple palestinien, venaient d'un pays qui était, il faut le dire, il y avait les États-Unis, il y avait également l'Union soviétique. J'aime à répéter que c'est l'Union soviétique qui a, avec Staline, imposé cette notion d'État juif, avec Romico aux Nations Unies en 1947, Bien sûr, les États-Unis ont suivi, mais il s'agit là d'un complot mondial, je dis bien le mot, d'un complot mondial de forces qui sont matérialistes, d'une manière ou d'une autre, pour pouvoir, profiter d'un symbole sacré, afin, de donner une autorité à ce qui n'est qu'une œuvre de dépossession, une œuvre, de spoliation, je le redis, et ceci a été dénoncé bien avant la guerre, la dernière guerre mondiale, par un juriste, M. Saadi Bississou, que j'avais lu à la faculté de droit à Paris, à Cujas, et qui parle très bien de cette dépossession des terres, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la Jewish Agency, l'agence juive, était en procès pour spoliation, elle était condamnée, mais on n'avait jamais les moyens de faire exécuter le jugement. C'est-à-dire de condamnation en condamnation, cette entité sioniste a pris le pouvoir. On ne peut pas avoir là de ruse plus diabolique, voyez-vous. Et je dois dire que ceci ne peut qu'apparaître avec le temps. Le temps ne peut que déchirer le mensonge. Le temps travaille contre ces comploteurs. Je dis bien le mot de comploteur aujourd'hui, on a tendance à crier contre les complotistes. Mais il y a eu des complots dans l'histoire, des complots qui ont réussi, avec ruse, mais nous savons, le noble Coran le dit, que la ruse de Dieu est bien plus importante que la ruse des démons.
Merci pour ces éclairages, monsieur le professeur. Maître Chamy, le leader de la révolution islamique a en effet évoqué deux facteurs importants pour l'avenir de la question palestinienne, la poursuite de la résistance et de la lutte à l'intérieur des territoires palestiniens et la poursuite en effet du soutien à des pays musulmans, de la communauté musulmane, à ceux qui lutte justement pour la cause palestinienne. Dans quelle mesure justement ces deux facteurs déterminants pourront contribuer à la réhabilitation des droits du peuple palestinien et à la libération, en effet, de la noble Rhodes, Maître Chami.
Vous savez, moi, je dois être un peu pessimiste par rapport à la nation musulmane, mais je dois préciser une chose, c'est qu'il y a malheureusement il y a des bons musulmans et des mauvais musulmans. Il y a des musulmans qui ont la foi en eux et qui ont compris que la foi accompagne automatiquement le sentiment de justice, parce que l'islam est né pour lutter contre toute injustice. Et ça, beaucoup de musulmans l'oublient. Et effectivement, la Ligue islamique d'Iran, qui incarne cet esprit que j'appellerais saint, évidemment, a été le premier pays du monde à avoir cet engagement aussi fort, aussi puissant, mais aussi enraciné dans l'action et dans les esprits par rapport au peuple palestinien. Dès le premier jour de l'arrivée de la révolution, c'était, je dirais, la première décision pratiquement, c'était la disparition de l'ambassade d'Israël à Téhéran et son remplacement par l'ambassade de la Palestine, alors que la Palestine n'existait même pas dans l'esprit de certains Palestiniens. Et ça, quand vous donnez la place à une ambassade pour leur donner le statut d'un État, ça veut dire que vous avez ouvert la voie à la construction d'un État. Et les premiers, militants qui ont soutenu la cause palestinienne pour rendre l'idée de cet État visible, réalisable et menaçant réellement l'occupant, c'était évidemment les Iraniens et plus particulièrement l'Ayatollah Khomeini, mais après lui, évidemment, l'Ayatollah Khomeini qui a continué avec le même flambeau et autour d'eux, l'ensemble de la classe politique iranienne a commencé par le régiment d'Al-Qod et tout le monde aujourd'hui parle du rôle prédominant, pour ne pas dire prépondérant, du général Soleimani par rapport à la communauté palestinienne, parce que pour lui, le retour à Al-Qod, pour lui, c'était une mission sacrée pour laquelle il a consacré sa vie et, à mon sens, pour laquelle il est mort. Et il a été fait martyr. Pour lui, peut-être que c'était sans regret parce qu'il n'attendait que d'être martyr. Mais pour ceux qui l'ont soutenu dans son action, pour ceux qui ont cru en lui, évidemment, c'est considéré comme un drame. Mais il y a une volonté de continuer après lui, et c'est ça qui me paraît le plus important. Mais en parallèle à ça, le soutien apporté par les musulmans d'Iran au peuple palestinien, aujourd'hui, c'est visible. Il y a quelques jours, je regardais une émission sur ce lien entre le général Soleimani et la résistance palestinienne. L'ensemble des composants de la résistance palestinienne, tout bord confondu, était là pour dire on a eu un véritable soutien, le plus fort, le plus puissant et le plus fondamental, c'était évidemment le rôle de l'Iran et plus particulièrement le rôle du général Soleimani. Et ça, c'est le signal le plus fort. Et aujourd'hui, qui est le plus fervent opposant à l'antisémitisme et celui qui est considéré comme menaçant l'antisémitisme, c'est également la République islamique d'Iran. C'est-à-dire que c'est une guerre existentielle entre les deux et ça se terminera par la mort de l'entité sioniste et la renaissance de l'État palestinien.
Merci encore, Maître Chami. Monsieur le professeur d'Ortiguia, bien sûr, l'axe de la résistance est ça, en effet le martyr de la résistance. Le général Qassem Soleimani avait toujours portait une attention toute particulière à la résistance palestinienne. Donc, bien sûr, en raison de ce soutien de l'Iran et des groupes de la résistance à la cause palestinienne, aujourd'hui, Israël se trouve dans une impasse. Le leader de la révolution islamique a souligné aujourd'hui qu'Israël, justement, a continué de vivre un cauchemar. Et il a tout fait, le régime sioniste et ses partisans, pour retarder, pour fuir ce cauchemar, y compris cette tentative désespérée de normalisation des relations avec une poignée de pays arabes, de pays en effet très très faibles dans la région. Il paraît qu'aujourd'hui, monsieur le professeur d'Ortiguier, le régime sioniste en effet n'a d'autre choix que de se soumettre à cette logique, à cette force de la logique de la résistance au niveau régional, monsieur le professeur.
Oui, en effet, vous le dites très bien, monsieur Codavandé, je me permets de le dire en toute humilité. Il y a une logique, en effet, de la résistance. Cette logique a été, je dois dire, sur le plan juridique, formulée, ceci doit être connu, dès que Israël a présenté sa candidature, donc dans les circonstances juridiques, aux Nations Unies. Il y a eu une condition qui a été mise par les Nations Unies, condition qui n'a jamais été respectée, c'est que cet État fasse partie de la communauté internationale sous la réserve qu'il puisse restituer ce qui avait été spolié aux Palestiniens. Or, naturellement, sous prétexte que cette résistance était terroriste, etc., jamais, les autorités israéliennes n'ont manifesté, disons, de remords quelconques ou de décision, par exemple, de vouloir composer avec les habitants. Ils ont, comme on le sait très bien, ils ont même brûlé toutes les archives, etc. Ils ont voulu faire, disons, ils ont voulu expulser, déraciner complètement les Palestiniens. Et donc, au congrès de Jéricho, puisque je réponds à Maître Chami, faire écho à ce qu'il a dit, au congrès de Jéricho, je crois que c'est 1948, oui, c'est-à-dire après la proclamation de l'entité sioniste par Ben Gurion, il a été décidé que la Palestine s'est elle-même reconnue comme appartenant, faisant partie, je cite les textes de la déclaration de palestinienne de l'époque, comme faisant partie de la Syrie méridionale. Et ceci est très important. C'est-à-dire qu'on peut en tirer des conclusions aujourd'hui. Il ne peut y avoir de paix en Syrie. Il ne peut y avoir de paix à l'intérieur de l'Orient arabe. Il ne peut y avoir de paix qu'à condition que le problème palestinien soit résolu. Il n'y a qu'une seule façon de le résoudre, c'est de restituer les terres qui ont été volées. Bien. Alors, ceci est peut paraître inaccessible. Pourtant, c'est la loi. La fatalité, le destin lui-même, disons, y portera. Il y a une vieille formule, je terminerai là-dessus, vieille formule du professeur allemand Hegel au XIXe siècle. Il a fait un livre, une conférence sur le destin. Et il visait d'ailleurs le peuple juif dans ce destin. Il disait, le destin, c'est la conscience de soi, mais comme d'un ennemi. Et là, aujourd'hui, l'État d'Israël, c'est la conscience de lui-même, mais comme d'un ennemi de ses propres intérêts, de l'intérêt de ses propres habitants. C'est-à-dire que ceux qui ont poussé les Israéliens, la colonisation sioniste, ne sont pas réellement des religieux. Ce sont en réalité des matérialistes, ce sont des athées, ce sont des bolcheviks, tout le monde le sait, n'est-ce pas? C'est eux qui ont fourni les principales, et avec leurs correspondants, bien sûr, aux États-Unis. Tout ceci, disons, est contre l'intérêt des Juifs eux-mêmes, voyez-vous, bien sûr, de la communauté juive en général, mais il faut savoir qui manipule les ficelles, qui a poussé cela. C'est pour ça que j'aime souvent citer cette proposition russe de Staline, pas de fonder l'État d'Israël, en 1947-48. Bien sûr, de nombreux Juifs se sont laissés prendre dans ces propositions. Il y a même des attentats, vous savez, qui ont été faits en Égypte, dans d'autres pays, pour faire croire que les Juifs étaient, à l'époque, malvenus dans ces pays, et que donc l'État d'Israël serait une terre de sécurité. Au contraire, c'est une insécurité. Il faut justement que la conscience religieuse, sous quelque forme qu'elle apparaisse, disons, se heurte, disons, se dresse plutôt contre ce qu'on appelle des manipulateurs de la notion de Dieu, des manipulateurs du sacré. En réalité, des forces diaboliques, elles sont supérieures à nous, mais nous avons la foi, bien sûr, et en premier les musulmans, nous avons la foi que la puissance de Dieu est supérieure aux Russes des démons.
Merci encore. Une toute dernière question à Maître Chami. Maître Chami, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il s'agit d'un, pour la Palestine, les groupes palestiniens, la résistance, un combat désormais existentiel. Alors, quelle est la stratégie, les groupes de la résistance, le monde musulman devrait en effet adopter pour faire face au régime israélien dont la survie est plus que jamais en jeu, Maître Chami?
La stratégie est celle qui a été adoptée depuis quelques années, c'est-à-dire la stratégie de l'axe de la résistance. L'axe de la résistance, c'est de se rapprocher de plus en plus de la frontière de l'entité sioniste, enfin la frontière supposée de l'entité sioniste, afin de créer ce sentiment de peur, y compris au sein de la population, parce que tant que la population se croit être en sécurité, évidemment, ils auront toujours l'illusion qu'ils peuvent vivre tranquillement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui, quelle est la plus grande menace, me semble-t-il, pour l'entité sioniste? C'est le courant de départ, c'est-à-dire quand sa propre population commence à quitter le territoire occupé. Parce que, à partir du moment où vous ne vous sentez pas en sécurité dans un pays qui était censé vous apporter la paix, dans lequel vous êtes censé vivre paisiblement sans que l'ancien propriétaire, si je veux dire, de ce territoire, devienne vous troubler dans votre existence. Évidemment, c'est cette menace-là qui vous fera partir. Et aujourd'hui, me semble-t-il, d'abord, que le courant de départ s'amplifie, mais il y a une volonté, évidemment, de créer ce sentiment de terreur, parce que la population des alentours, notamment les Palestiniens, les Libanais, les Syriens et bien d'autres peuples, ont subi la terreur des attaques israéliennes. Mais aujourd'hui, cette peur, cette terreur s'est inversée, c'est-à-dire quand vous voyez comment c'est ressenti les attaques de missiles du côté, quand ça vient du côté de Hezbollah ou quand ça vient du côté de Gaza. Évidemment, ça, c'est une déstabilisation totale de tout le régime parce que il y a une question qui est posée par la population. On est venu pour que pour qu'on soit en paix, puis finalement, vous, hommes politiques de ce pays-là, vous n'avez pas été en mesure de nous apporter cette paix-là. Et c'est ça la question existentielle qui va se poser les prochains jours, les prochains mois. Et derrière tout ça, c'est le renforcement de la résistance, plus de terreur, et évidemment, il y aura un effondrement de l'intérieur, tous les coups de l'acte de la résistance qui nous seront tardés parce que, encore une fois, cette bataille aura lieu. La question est de savoir quand aura lieu cette guerre et cette bataille.
Merci. Monsieur le professeur d'Ortiguier, il nous reste 2 minutes. Et pour vous, dans quelle mesure, en effet, cet inversement du rapport des forces, cet équilibre, en effet, de la terreur concernant la question palestinienne jouera un rôle essentiel dans l'avenir.
Maître Chamy a parlé justement de cette question existentielle. Il est certain que la population, l'insécurité de la population joue un rôle, bien sûr, aura un facteur. Mais disons, il ne peut y avoir réellement de renversement de situation que s'il y a une union des populations concernées, c'est-à-dire des populations palestiniennes, syriennes, etc., et des États musulmans en premier. C'est-à-dire que toute la région est solidaire. Tant qu'il n'y aura pas de solidarité réelle, effective, si cette solidarité ne se manifeste pas, alors l'entité sioniste pourra subsister dans les massacres, subsister dans la terreur, disons une terreur partagée, du côté évidemment beaucoup plus partagé par les Palestiniens que par les Israéliens, mais disons une terreur commune quand même. Or, ceci ne peut s'arrêter que si les États prennent conscience, c'est eux qui sont responsables devant Dieu et devant l'histoire, que si les États locaux prennent conscience qu'il ne peut pas y avoir d'équilibre, de paix durable, si cette question palestinienne n'est pas résolue, n'est pas correctement posée. Or, les conférences jusqu'à présent ne l'ont pas fait. Et je crois que nous sommes au pied du mur et que ceux qui aujourd'hui pactisent avec la politique de M. Netanyahou dans les États arabes commettent un très grand crime contre leur peuple et seront responsables justement des malheurs futurs. Il faut justement qu'eux-mêmes sachent que leur propre trône, leur propre équilibre, disons, sera rompu. L'histoire, dans le vrai sens du terme, qui est dans les mains de Dieu, ne permettra pas, disons, à quelque chose d'absurde, de sanguinaire comme cela, de durer. C'est impossible. Je crois donc qu'il faut une solidarité totale des peuples et des gouvernements et des États locaux.
Monsieur le professeur Pierre d'Ortiguier, philosophe et politologue français, maître André Chamy, juriste international et sociologue, je vous remercie infiniment d'avoir été nos invités pour cette émission. Merci beaucoup.
Au revoir.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.